ça rime à quoi ? Ça rime à quoi, en compagnie de Louis Smithson, pour son corps du délit où se cache le temps. Vous êtes chilien, Louis Smithson. Votre accent garde la trace de cette vie-là en amont, avant le coup d'État militaire qui vous a mené en France. Mais même le prix international Benjamin Fondane de littérature francophone, qui vous a été remis en cette année 2014, ne gommera pas cette voix-là de Valparaiso
oui,
qui chante toujours.
Accent, il faut avouer. Hein. Mais c'est curieux parce que cet accent... En France, on me dit toujours, vous êtes italien. Parfois, on me dit, vous avez quand même un petit accent, de quelle partie vous êtes. Bon. Mais finalement, on me confond. Jamais on me dit, vous avez un accent espagnol. Et c'est très curieux parce que l'accent latino-américain est beaucoup plus doux, finalement, que l'accent espagnol. Mais je pense que c'est l'influence des Indiens dans notre manière de parler. Nous sommes doux, les Espagnols sont un peu beaucoup plus fâchés, beaucoup plus forts pour parler. Comme si on était fâché avec des gens.
Et quel rapport ça vous fait à la langue, à la fois cette langue-là en vous et en même temps depuis tant d'années que vous avez choisi d'écrire en français ? Parce qu'au départ, vos poèmes étaient écrits en espagnol et publiés et traduits en français. Et depuis maintenant...
Il y a un passage.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est venu avec le changement de siècle. C'est venu avec l'an 2000, la publication en français directement.
Moi, je pense que... Ça correspond aussi à ma manière de concevoir la poésie. Hein. La poésie, c'est quelque chose qui se fait autour du poète dans un petit cercle, finalement. Et ce sont des expériences, ce n'est pas des théories, ce n'est pas une pensée immense qu'on va imposer aux gens. Ce sont des expériences qu'on essaye de les donner une qualité de permanence dans le langage. Alors forcément, quand on habite un autre pays, on habite entouré d'une autre langue, on doit assumer ces contraintes finalement. La contrainte de vivre ces expériences dans une autre langue, et par ces raisons, ça doit être matière poétique. Et c'est incorporé donc à la poésie. Donc je n'ai pas les soucis de qu'on me dit parfois, et avant je l'avais, j'avoue que je l'avais avant. Ah mais on te connaît très peu dans ton pays finalement. Mais moi je pense finalement que je n'ai pas tellement les droits d'imposer ma poésie.
Qu'ils soient, d'être un poète français et un poète chilien.
Mais non, ils sont là-bas, leur propre poète en train de faire leur propre poésie avec cette expérience. Moi j'ai fait ça déjà. Il y a une partie dans mon œuvre qui est faite en espagnol et qui, ça véhicule un vécu. Ça a été même publié en France de façon, comme on faisait toujours dans certaines éditions, Gallimard le premier, c'était de me publier bilingue.
Traduit par Roger Caillois, puis Claude
oui,
Couffon.
Oui, Caillois. Mais Caillois connaissait très bien, finalement, ce monde latino-américain et ce monde, disons, de notre poésie, de notre manière d'être aussi.
C'était quoi un poète chilien, Louis Smithson, alors, à l'époque?
Ah là là, c'était d'abord quelqu'un qui ne se reconnaissait pas en tant que poète, qui avait une honte énorme d'être signalé en tant que poète, comme dans une petite école. Finalement, dans notre mentalité chilienne, ce n'était pas tellement glorieux d'être poète. Hein? Et dans un certain monde, moi, j'ai été placé, par les hasards de la vie, dans une école de droit. Parce que j'avais fait des études de droit. Bon, j'aimais l'histoire, donc je fais aussi d'histoire. Je finissais comme professeur d'histoire de droit. J'étais entouré, moi, poète, entouré de professeurs de droit. C'était ça, ma situation. Alors, dans ce monde-là, j'ai d'autres amis poètes, avocates, ont vécu dans ce monde-là, mais être poète, c'est une insulte presque. Quelqu'un me disait en France, un ami chilien, en France, un homme politique doit écrire un livre pour être reconnu aussi, en plus, comme un sort d'intellectuel, un homme de sensibilité, un homme intelligent qui écrit aussi des essais, ou bien simplement même des romans, ou des poèmes, certains.
Ça, c'est encore mieux.
Mais c'est encore beaucoup mieux. Bon, au Chili, ça l'écoute la réélection, tout de suite. Il ne sera jamais réélu à partir de ce moment-là. Par contre, écrire un livre d'histoire, peut-être, très ennuyeux, bon, ça peut être admis. Mais c'est un peu comme ça, c'est une vieille tradition depuis le 19e siècle que ça existe. Hein.
Donc peut-être que si vous n'étiez pas venu en France, Louis Smithson, vous ne seriez pas devenu poète pleinement?
C'est très difficile, parce que j'écrivais évidemment mes poèmes en cachette depuis mon adolescence, depuis ma puberté, je peux dire, en coïncidence aussi. Bon, j'écrivais simplement chez moi, et tranquillement, je dessinais aussi. Mais je ne montrais pas. Après, j'ai publié mes livres, je faisais souffrir, j'ai torturé tous mes amis, en train de demander toujours qu'est-ce qu'ils pensaient sur mes poèmes, est-ce que tu penses que je dois faire des choses. Je savais très bien qu'est-ce que je devais faire. Mais comme tous les poètes, je faisais semblant de citer véritablement entre une chose ou l'autre. Après, quand j'avais les confirmations de ce que je pensais, c'était le plus correct, et moi je faisais ce qu'ils voulaient. Mais finalement, c'est comme ça que je vivais à ce moment-là, hein, poète clandestin. J'étais toujours en certaine clandestinité. Mais finalement, ces poésies s'est imposée chez moi, mais à partir de 18 ans, pendant même avant. Moi, j'ai déjà contacté d'autres poètes qui existaient, qui avaient à Valparaíso, dans les centres de réunion, sont des librairies de seconda mano, c'est-à-dire
de deuxième main.
Mais voilà. Ou des troisièmes, ou je ne sais pas combien, quand ce sont des très vieux livres, non? Et alors là, qui sont aussi des points de réunion. Parfois, ce sont des endroits un peu inondés parce que, par la cause des énormes pluies. Mais là, se réunissaient des poètes pour parler, simplement. Alors, il y avait un club de poètes de Valparaíso où j'ai publié parfois mes petits poèmes. Derrière la garde-robe, il y a une ville à tiroirs où personne n'habite. Draps, oreillers, couvertures, dessus-dessous, trousseaux d'un fantôme enfermé dans l'armoire, nappes et serviettes en abondance, brodées d'initiales énigmatiques, d'étonnantes objets théâtraux. Tout est écrit par le corps, sans que la main droite sache ce que fait la main gauche. Les langes immaculées racontent des histoires cryptées. Près de la flamme, les taches deviennent visibles. On voit la trace de la machinerie, des effets spéciaux, les scènes sombres du balcon, l'aveu des amoureux, les hésitations des comédiens, les soupirs des jeunes poètes, les traces de l'amour et de la haine. L'oubli n'a rien effacé. Je respire dans les draps un parfum de falaise. Je vois les vagues se briser dans les criques et les anses mouettes. Je caresse en toute liberté la peau sensuelle de l'oubli. Ses secrets dégagent une odeur de mousse, grotte, lumière et vide. Les mystères des genoux, les coins de la chambre où le soleil cache ses bijoux. Le soleil. Je respire la nudité de l'oubli. Son odeur monte à mes narines et il m'est délectable. Les langes dansent à la fenêtre, l'armoire danse avec les vents. J'écrase sur les murs les minuscules corps du délit où se cache le temps.
Voilà la clé, Louis Smithson, de ce titre. Corps du délit où se cache le temps. Alors, quelle est cette chose qu'il faut écraser sur le mur? Alors que l'on a parlé des vieux linges pliés, de l'odeur du souvenir?
Oui, bon, les corps et les temps sont étroitement unis. Hein. Les corps, c'est dans les corps, et c'est parce qu'il y a des corps qu'il y a les temps. Et dans ces corps, donc, qui souffrent, pas seulement souffrir, hein, mais qui, disons, portent le temps, et il y a aussi la transcendance du temps. Mais là, je joue avec cette idée. Et ce que j'écrase, quand je dis le corps du délit où se cache dedans, j'écrase un petit corps d'un moustique, non? Je pense que ça, c'est... Mais ce serait quoi, c'est délit aussi. Les corps de délit, on dit souvent les... pour un lieu de crime, non? Mais ce n'est pas seulement ça. C'est toujours considérer l'infraction, même la rébellion. Et les premières, notre délit qui nous a mis tous les êtres humains dans le temps, c'est Adam qui l'a commis. Selon les mythes ou les religions, ça dépend des points de vue qu'on prenne. Mais en tout cas, ça serait à la faute, donc, les délits très loin dans le passé. À partir de ce moment-là, il y a les temps cachés dans les corps. Et là, dans les langes, dans ces sortes de vie quotidienne, je sens qu'on ouvre surtout à la campagne, un armoire de campagne, et on voit tous ces langes des grandes mères avec des initiales énigmatiques et alors d'autres vies. Alors on sent la présence des temps.
Et des secrets aussi.
Et des secrets, c'est évident. Des secrets de toutes sortes, qui finalement sont les mêmes, peut-être, qui vont se transmettre de génération en génération.
Je respire dans les draps un parfum de falaise. Partout, il y a la mer dans vos poèmes, Louis Smithson.
Sûr, ouais.
Comme une vague par flux et reflux, même à des milliers de milles du Cap Horn. Où que vous soyez pour écrire, ça reste ça.
Bien sûr. Dans les draps, je pense que tout le monde a imaginé au moins une voix de sa vie qui est un même un océan parfois agité.
Sans les voiles?
Oui. Oui, oui, bien sûr, quand souffle le vent fort.
Et quand vous écrivez que votre poème est un vaisseau, que chaque vers est un vaisseau dans le poème, qu'est-ce que vous voulez dire, Louis Smithson?
Avec la poésie, on essaie de comprendre quand même ce qui nous entoure. Et on comprend par l'image, parfois. Et dans ces poèmes, c'est une grande métaphore des émigrants, des clandestins, des gens qui sont portés par les langages. De ces langages, donc, qui portent toutes sortes d'émigrants clandestins à l'intérieur. Et qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Nous sommes à l'intérieur de notre langage et en tout petit chose. Déjà, nous sommes nés à l'intérieur que nous sommes nés. Nous sommes nés à l'intérieur d'un langage qui n'est pas fait par nous.
Je tombe par l'escalier des mots, vous écrivez quelque part.
Oui.
Dans cette dégringolade aussi du langage
qui nous submerge. Oui, ça, ce sont les risques de langage. Parfois, les langages savonneux. On peut glisser par le langage et on peut se casser la gueule aussi dans le langage.
Et dans ce cas-là, le poète commet un délit?
Oui.
Ou de se laisser aller à un langage facile?
De laisser aller à un langage, trop de langage. Trop de langage. Je connais quelqu'un qui dit toujours trop quelque chose, tue quelque chose. Alors, trop de langage, tue le langage, on peut dire parfois. Et déjà, je pense que Borges dit ça, des très grands poètes parfois. Parce que le langage, finalement, poétique surtout, et demande concentration. C'est de la lumière concentrée, on peut dire, hein, ou de les expériences, mais concentration. C'est dans les romans qu'on peut se laisser aller à un langage qui est à l'expansion.
France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nolot.
Quelque part, vous parlez de vos poèmes qui auraient des cratères dessinés par des papillons. Et on comprend, Louis Smithson, que par-delà les images, qui sont infiniment nombreuses dans vos poèmes, il y a une réalité assez rude, en fait.
Oui, il faut se méfier. Vous croyez parfois qu'un petit chien comme ça, que vous allez le caresser, mais peut mordre. Oui, il y a une réalité rude, parce que la terre et l'histoire, les deux choses que j'ai vécues, qui sont présentes dans les poèmes, d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas se faire autrement, mais sont très rudes. Même, je vais dire, la vie qu'on vit actuellement, et pour tout le monde, jeune ou pas jeune, poète ou pas poète, nous sommes en train de vivre une histoire rude, sans aucun doute.
Et vos poèmes, alors, aujourd'hui, Louis Smithson, quelle force ont-ils? Que réussissent-ils à dire? Vous parlez de cette âme à la fois du tremblement de terre et il y a l'âme musicienne qui court aussi dans vos poèmes. Sur quel pied danser et comment tenir bon dans cette aventure où vous, malgré tout, vous restez un migrant perpétuel?
Ça, c'est l'art de la musique, hein?
Oui, mais c'est pas si facile.
Non. Non, c'est pas facile du tout. D'ailleurs, moi, je suis déjà à la tâche d'écrire en français.
Pourquoi?
Mais parce que, justement, c'est un tout d'âge. Et vie en français, je les vis en français, et je dois aussi les dire en français. En poésie et en prose. Ça n'empêche pas que je peux aussi écrire en espagnol, je continue aussi à le faire, hein, parfois. Mais par rapport à la poésie, ça serait une poésie dont l'expérience est déjà ensevelie dans la mémoire. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est ma nouvelle poésie, je peux dire l'écrit en français. Mais ça, c'est un dialogue interne de la poésie entre la mémoire et l'expérience. Et nous sommes toujours en train de vivre la tension entre ce que nous sommes en train de faire et d'introduire dans la mémoire et notre mémoire, déjà des choses qui sont en train d'habiter depuis longtemps.
La poésie doit s'écrire dans la langue qui tremble, alors.
Exactement. Exactement. La poésie doit écrire ce qui nous fait trembler encore. Les canards de l'au-delà ont l'élégance de ses talons ailés. Ils sautent du feu. Ils quittent leur nid en flamme, la forge marine, les vagues et les brasiers de la mer. Ils s'envolent et s'évaporent entre les œufs cassés des tortues, des mouettes et les immenses coquilles de la nuit. L'enclume des nouveaux-nés s'enfonce dans les sables. L'amour est aussi un langage. Déjà, dans les regards de leur mère, les hommes et les anges apprennent l'art oratoire de l'abîme et un goût d'eau salée qui leur fait du bien.
Ces canards de l'au-delà, Louis Smithson, je ne sais si c'est une image chilienne, mais en tout cas en français, ça détonne. Ils existent vraiment, les canards de l'au-delà? Ça vous est venu comment?
Les sources des images, parfois, sont... Moi, j'étais très, très, très étonné de voir comment des cols sur la scène, mais pas seulement sur la scène aussi. J'ai vu ça à Amsterdam, j'ai vu ça dans... là où il y a de l'eau, finalement, des canons. Et comment décollent les canards? Comment ils s'amusent, finalement? Ces manières de faire quelque chose qui semble à la fois pratique, mais semblait un sort de jeu et de transfiguration, comme ça. Ces sortes de courses dans l'eau, ces sortes de décollages, et ces sortes aussi de ces manières de venir de l'air et tomber de nouveau dans l'eau. Et ça m'a fait penser à l'au-delà. Mais il n'y a pas de jeu de l'eau, hein?
Et l'art oratoire de l'abîme?
L'abîme, l'art oratoire de l'abîme, c'est une manière, c'est une allusion à cet abîme que c'est ce qu'on ne peut pas nommer. L'abîme, c'est qu'il y a au-delà des mots. L'abîme, c'est là où il y a toujours la peur. Et nous faisons devant l'immense abîme de notre existence et quelque chose qui ressemble énormément à l'art oratoire. C'était curieux maintenant que vous dites oratoire. Hein? Je vois que dans oratoire, il y a aussi prière. Mais l'art oratoire, ça veut dire aussi la rhétorique, ça veut dire aussi les jeux de mots. Combler les vides, exorcisme, on peut dire aussi, devant l'abîme. l'art oratoire de l'abîme. Mais je pense que depuis la naissance, il y a cette confrontation entre ce langage qui est, après tout, notre cloche de protection. C'est un peu comme une armure aussi, notre langage. Et ce qu'il y a en dehors du langage, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne pouvons pas encore assimiler à aucun langage.
Et ces poèmes-là, Louis Smithson, que vous écrivez en français, vous les entendez à l'oreille, parce que ce qui est assez étonnant à vous entendre dire, après les avoir lus à voix basse pour soi, c'est combien l'espagnol, votre espagnol chantant de Valparaiso, mange les S, mange les moments comme ça, il y a beaucoup de liaisons qui sont évaporées, et tout d'un coup il y a une musique de la langue qui est à la fois très chantante en français et qui en même temps est vôtre. Alors est-ce que vous dites à voix haute lorsque vous écrivez, ou bien c'est plus intérieur et après cet accent-là chilien se charge de redonner encore plus de musique
moi,
à la langue.
Bien, j'aime bien quand j'écris, lire aussi à haute voix, hein, pour savoir comment ça sonne un peu. C'est très musicien aussi, le travail avec la poésie. Hein, parce que la musique doit être pesante. Alors pourquoi? Bon, ça, je ne pourrais pas répondre. Mais ça fait partie de la poésie.
Pour vous, Louis Smithson, est-ce qu'il y a parfois un face-à-face avec le mot français qui laisse du mystère? Ou bien vous avez un rapport à la langue comme une langue maternelle qui coule de source? Ou bien il y a ce jeu et ce plaisir des mots que l'on emploie tout en sachant qu'on n'en fait pas encore le tour?
Peut-être que c'est une langue maternelle au cas d'une deuxième naissance. Et dans ces cas-là, j'accepte que les Français peuvent être aussi une langue maternelle, pourquoi pas? Mais parce que finalement, ce qui est propre de l'exil, c'est aussi une sorte de naissance quand même. Au point que finalement, on ne sait pas tout à fait quel est les lieux de retour. C'est que tous les exilés se rendent compte finalement, exilés, forcés ou pas forcés. On porte dans la tête ou dans le cœur les lieux d'origine, qui c'est aussi les lieux de retour, la mer. Mais finalement, on se rend compte que depuis le temps, ces lieux, ce n'est plus les seuls. Qu'il y a parfois un autre retour qui s'ajoute. Et c'est le retour au pays où on vit, où on fait notre vie. C'est plus qu'un engagement, c'est une sorte d'expérience aussi. L'expérience maternelle, pourquoi pas? On peut l'accepter.
C'est pour cela qu'il est question du paradis, quelque part, dans ce livre. C'est vraiment le paradis, dites-vous, Louis Smithson. Et vous insistez.
Oui, oui, justement, parce que je parle de ces sortes de migrants clandestins qui sont à l'intérieur des mots. Et dans ces souvenirs qui sont transmis par les mots, et il y a des souvenirs où la comparaison se fait toujours avec ce qu'il y a, bien qu'une personne les connaît, on compare toujours ce qu'on aime avec cet inconnu que c'est le paradis, comme si on le connaissait. Mais en fait, on ne le connaît pas. Mais en fait, sans le connaître, c'est pour nous, disons, l'élément qui nous permet de comparer tout ce qui est bon. Hein, ça sera paradisiaque, c'était le paradis, on n'a jamais été au paradis. Alors là, je joue avec ça, et il y a des petits souvenirs, des choses qui sont minuscules, comme ça par exemple, comme dans ces métaphores, ces clandestins, si on voit bien, ce sont quand même africains. Alors, ou des gens qui viennent des terres pauvres, des terres sèches, pour eux, les paradis, c'est là où il y a la terre humide et des petites fleurs blanches. Et là, c'est le paradis, alors. Dans la terre stérile et aride, ces comparaisons, c'est le paradis. Je n'ai pas la prétention de corriger le ciel. J'accepte ses comptes. Je n'ai pas le souci de savoir dans quelle colonne il a collationné les calices volés. Comment il a dissimulé les malversations de la lumière. Ni quelle partie d'aumône escamotée il va prendre pour tenir en équilibre son bilan, dont la somme du tout plus tout multiplié par tout est égal à zéro. Armé de mi de pain, seau de cristal, homme et femme pétris de ces bons limons si célèbres dans l'Antiquité, la bonne pâte à modeler qu'on trouve dans les méandres du fleuve ou simplement imprimé en plastique transparent d'aujourd'hui. Restez là où vous êtes, à votre place. Restez parmi les ondes dans la texture de sel et d'argent. Soyez vigilante. Je quitte le visible. J'abandonne tout ce qui se tâche, se défait et s'efface. Je reste avec l'obscur et les douteux, dans l'invention du noir, traversé par les souffles des décharges inconnues. L'arc-en-ciel se brise en larmes irisées. Gouttes de mercure, sillon creusé sur le visage tendre de la nuit.
Le visage tendre de la nuit, peut-être aussi que c'est vers cette face-là qu'ouvre la couverture Louis Smithson avec cette perse comme un œil de Judas, mais solaire, et qui donne envie de tourner la page pour aller voir. Finalement, dans ce livre-là, Corps du délit où se cache le temps, qu'est-ce qu'il y aurait à voir qu'on aurait laissé passer, qu'on aurait laissé filer? Est-ce qu'il y avait une chose à décacheter, comme dans ces livres où il faut sans arrêt soulever quelque chose pour voir sous les mots? Du soleil jusqu'au cœur tendre de la nuit.
Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut laisser découvrir ce qu'il y a, parce que moi-même, dans ces lectures, qui c'est votre lecture, mais c'est aussi un écho, ce que vous me poussez à réfléchir, et moi, je découvre aussi des choses. Là, par exemple, le visage tendre de la nuit. Tout de suite, là, j'ai eu une image, justement, du nord du Chili, et en voiture, et dans le désert d'Atacama, la voiture s'arrête. Et comme il n'y a absolument personne autour de nous, et en sortant de la voiture, je regarde le ciel, mais il n'y a pas de rien qui cache la lumière. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle la pollution des lumières des villes. Donc, l'impression qu'on a par rapport au ciel, c'est de cette immense tendresse, de cet immense océan de lumière qui est vraiment le ciel.
Corps du délit où se cache le temps de Louis Smithson est publié aux éditions Ancrage & Co. Ça rime à quoi, 24h sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarim Akwa, Valérie Lavalard, Sylvain Richard, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.